d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. Et tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Ils sont les remparts de la République et ils sont épuisés, essorés par la crise des gilets jaunes. Les syndicats de policiers, une nouvelle fois reçus ce soir au ministère de l'Intérieur et une nouvelle fois déçus. Ils demandent au gouvernement de revoir sa copie. Une nouvelle réunion doit démarrer dans quelques instants, on sera sur place en direct. Préparer un texte de loi aussi rapidement est un exercice délicat, dit Édouard Philippe, qui tente de justifier le cafouillage d'hier sur les mesures annoncées, retirées, puis finalement maintenues. Ce qui est sûr, c'est que les élus ne chôment pas en ce moment. Ça carbure sec à l'Assemblée et au Sénat, nous dira Adrien Beck. La fin d'un long feuilleton et le soulagement pour les 281 salariés d'Ascoval. Leurs emplois sont sauvés. La justice valide l'offre de reprise d'Altifort, dont le cofondateur, Bart Guyert, sera l'invité d'Emmanuel Duteil tout à l'heure à 22h20. Et puis le foot, 6 matchs ce soir en Coupe de la Ligue. Lyon qualifié pour les quarts de finale après sa victoire tout à l'heure, 3-2 à Amiens. Tandis que la Bérésina, me semble-t-il, continue pour Marseille. Yann Théraud, l'OM qui affronte Strasbourg. Hein.
Oui, c'est le mot, Isabelle. Effectivement, la Bérésina, Strasbourg mène 1-0. C'est la mi-temps. Jonas Martin sur pénalty à la 18e.
Direction Monaco maintenant avec vous, Frédéric Elion. Les Monégasques qui affrontent Lorient. Le match a dû être interrompu à cause des conditions climatiques.
Exactement, Isabelle. Une grosse demi-heure d'interruption. Le jeu a repris il y a 5 minutes, 23 minutes ici et toujours 0-0.
Merci à tous les deux, Yann Théraud et Frédéric Elion, que l'on retrouvera en direct dans le courant de ce journal. Je vous donne les résultats des 3 autres rencontres et c'est assez simple. 0-0 à la mi-temps entre Rennes et Nantes, entre Nice et Guingamp et entre Dijon et Bordeaux. Et puis côté météo, attendez-vous à un jeudi sous les nuages et les averses sur les deux tiers nord et sous la neige. Au-delà de 1000 mètres sur le massif central, les Vosges, le Jura, le ciel restera voilé aussi sur le sud-Aquitaine et les Hautes-Pyrénées. Si vous habitez entre le Languedoc-Roussillon et les Alpes, alors là, vous avez de la chance parce qu'il fera beau. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal.
Europe 1.
Insuffisant. Les policiers reçus une nouvelle fois au ministère de l'Intérieur en fin d'après-midi en sont ressortis déçus. Des policiers exténués qui n'en peuvent plus et qui ont fait la grève du zèle aujourd'hui pour leur rémunération et de meilleures conditions de travail. Après 3 heures de négociations sans succès déjà hier, nouvelle rencontre donc ce soir avec Christophe Castaner et nouvelle déception à la sortie. Les discussions ont été interrompues. Elles doivent reprendre d'un instant à l'autre. Pierre de Cossette, vous êtes en direct.
Oui, une négociation très tendue et ça coince. Les 3 principaux syndicats de gardiens de la paix, les gardiens de la paix, c'est 100 000 hommes tout de même, ont dit non pour l'instant aux propositions de Christophe Castaner. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas une prime de 300 euros, ce sont des augmentations, pour dire les choses simplement. Or, si l'on en croit Philippe Capon de l'UNSA Police, le ministre n'envisage toujours ce soir qu'une prime légèrement modifiée par rapport à hier. Et vers 20h, ces syndicats sont sortis place Beauvau avec 2 heures d'interruption pour laisser le temps au ministre de revoir sa copie.
Il revient avec une proposition de prime sur 3 créneaux, 200, 300, 450, c'est pas ce qu'on a demandé. Là maintenant, nous, on est sur une négociation où il a besoin d'arbitrage. Des arbitrages, il les avait pas là. Il nous a proposé dans un premier temps de revenir demain. Pour nous, c'est hors de question, on veut une réponse ce soir.
Et Christophe Castaner a donc eu 2 heures pour refaire les calculs, voir ce qu'il pouvait proposer, refaire donc des arbitrages. Mais là, on parle de privilégier peut-être des salaires à des équipements. On parle plus potentiellement de plusieurs centaines de millions d'euros, si l'on inclut notamment le paiement des 23 millions d'heures supplémentaires qui font partie des discussions. C'est donc potentiellement une soirée très longue qui s'annonce pour le ministre de l'Intérieur.
Eh bien, merci beaucoup Pierre de Cossette en direct de la place Beauvau pour Europe 1. Les gilets jaunes au cœur toujours de l'actualité politique, au lendemain de la cacophonie d'hier, le gouvernement qui fait savoir qu'il veut annuler certaines aides annoncées le mois dernier, avant finalement d'annuler cette annulation. Bref, tout ça a donné une assez mauvaise image. Certains parlent d'improvisation, d'autres de couac. Du coup, le Premier ministre a dû s'expliquer cet après-midi à l'Assemblée.
Reconnaissez avec moi, monsieur le député, que préparer un texte dans un délai aussi rapide pour un examen aussi intense est un exercice délicat, mais que ce texte qui prévoit des mesures puissantes permettra la réinjection dans l'économie de plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat vers les actifs.
Édouard Philippe, cet après-midi à l'Assemblée, concernant les fameuses mesures, elles ont été adoptées ce matin au Conseil des ministres et seront votées théoriquement demain à l'Assemblée et après-demain au Sénat. L'idée, c'est d'aller vite, le plus vite possible. Tout ça devrait être mis en application au 1er janvier. Autant dire donc, Adrien Beck, que du côté des députés, ça carbure beaucoup en ce moment.
Oui, les traits sont un peu tirés, on sent de la fatigue chez certains députés. Beaucoup ont siégé dans l'hémicycle jusqu'à 6 heures ce matin pour adopter notamment le financement de la hausse de 100 euros de la prime d'activité. Reste à voter demain les heures supplémentaires défiscalisées, l'exonération de la hausse de la CSG pour 5 millions de retraités, la prime exceptionnelle. Et tout cela va beaucoup trop vite pour le centriste de l'UDI, Philippe Vigier.
Le texte gouvernemental, ce matin en Conseil des ministres, est arrivé à 13h15 en Commission des affaires sociales. Là, je vous quitte pour aller à la Commission des finances. Et on est demain matin à nouveau en séance et on n'est pas toute la journée. Voilà les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. On ne va pas se plaindre. On est député, on a voulu l'être. Ce n'est pas sérieux. Voilà. Ça veut dire que le gouvernement, il fait du triple salto, il fait de l'improvisation à tout va.
Alors si tout se passe comme prévu, les mesures d'urgence seront votées vendredi par le Sénat. Mais attention, les sénateurs doivent voter exactement le même texte que les députés, à la virgule près. Sinon, eh bien, tout le monde risque de devoir revenir entre Noël et le jour de l'an. Je vous l'assure, personne n'en a envie. Un fonctionnaire de l'Assemblée me disait tout à l'heure, il faut absolument que les députés prennent des vacances. Ils ont tous l'air crevés.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et avant le grand débat national du mois prochain, le gouvernement prévient, on ne rejouera pas la présidentielle, on ne détricotera pas non plus ce que le gouvernement et le Parlement ont mis en place depuis 18 mois. Et puis concernant la prime exceptionnelle versée par les entreprises volontaires à leurs salariés, elle devra l'être avant le 31 mars. Précision aujourd'hui, elle concernera donc les salariés rémunérés jusqu'à 3600 euros. 4 à 5 millions de personnes y sont éligibles. Et puis notez que la majorité des ronds-points occupés depuis des semaines par les gilets jaunes sont progressivement évacués par les forces de l'ordre.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h07, c'est la suite de votre journal. Et c'est un soulagement pour les employés de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Je vous le disais, la justice a donc validé aujourd'hui la reprise du site par le groupe franco-belge Altifort, qui était le seul candidat. L'aciérie emploie 281 salariés. Lionel Gougelot, vous étiez à leur côté au moment de l'annonce.
Effectivement, après plus de 5 heures d'attente, le directeur du site a enfin pu annoncer la bonne nouvelle aux salariés qui se sont réunis en Assemblée Générale.
Le tribunal de Strasbourg a validé l'offre de reprise par Altifort, donc c'est exactement ce qu'on voulait.
Alors vous l'entendez, hein, des applaudissements, certes, j'ai vu aussi quelques larmes dans les yeux de certains salariés, mais pas d'effusion, une émotion contenue en fait, hein, Olivier Burny, délégué CFDT.
C'est que du bonheur, maintenant on va aller passer Noël et puis se ressourcer un petit peu pour être encore plus fort au mois de janvier pour relever le défi d'Altifort.
Un défi exposé par le repreneur belge et futur patron Bart Gruyaert avec un mot-clé, la confiance.
Soit vous avez confiance en moi, soit vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas me donner la moitié de confiance. J'ai confiance en vous. Mais il ne faut pas oublier que les mois à venir vont être hyper difficiles. Il faut qu'on ait des clients. Pour avoir des clients, il faut être compétitif. Je suis convaincu qu'avec la Forge, on peut gagner beaucoup d'argent dans cette usine.
Un discours visiblement mobilisateur. Nassim Bardi, délégué CGT chez Ascoval.
Maintenant, il ne faut plus regarder derrière. Maintenant, il faut regarder devant nous. Derrière, c'est fini. Maintenant, une nouvelle aventure. C'est à nous maintenant de prouver au gouvernement que, regardez, une entreprise française est capable, après un redressement judiciaire, de se relever et d'être compétitif, et puis en plus de développer, on va dire, l'innovation, les compétences, et puis embaucher derrière aussi.
Parce que le projet prévoit à terme le recrutement de 140 salariés qui viendront s'ajouter aux 281 emplois qui ont été sauvés aujourd'hui.
Le reportage de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et je vous rappelle que le cofondateur d'Altifort sera l'invité d'Emmanuel Dutheil d'ici quelques minutes. Avenir toujours incertain, en revanche, pour les salariés de l'usine de Blanquefort en Gironde. Ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, n'a pas écarté l'hypothèse d'un rachat provisoire de cette usine par l'État. Il se dit ouvert aux solutions les plus originales pour sauver ce site après le rejet d'une offre de reprise. Les salariés se disent, eux, plutôt séduits par cette idée. Une enquête ouverte après la mort d'une femme hier, 12 heures après son arrivée aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Enquête sur les causes du décès et sur la prise en charge de cette patiente. Une ancienne ministre soupçonnée de prise illégale d'intérêt, Fleur Pellerin, ex-ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement Valls, aurait, du temps où elle était au gouvernement, tissé des liens avec un géant du web sud-coréen avant de prendre pour client cette même entreprise dans le cadre de ses activités dans le privé.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09 et tout à l'heure on entendait le désarroi des policiers. Les pompiers, eux aussi, sont à bout, de plus en plus nombreux à être victimes d'agressions. Elles ont augmenté de 23% l'an dernier. En 10 ans, leur nombre a été multiplié par 3. Des agressions qui ont lieu lors des interventions alors qu'ils viennent sauver des vies, comme le raconte le colonel Patrick Ergen. Il est le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
On a des choses qui peuvent apparaître mineures, des insultes, des crachats, des coups de poing, des violences qui peuvent apparaître comme des violences du quotidien, mais qui sont extrêmement choquantes pour les sapeurs-pompiers qui ne comprennent pas qu'ils soient agressés lorsqu'ils viennent porter secours. Et puis parfois, on a des vrais guet-apens avec une alerte qui est destinée à faire venir des sapeurs-pompiers, et puis ensuite une opération quasiment commando où on va nous jeter des pierres, pratiquement parfois des tentatives d'homicide. Voilà, plein de formes différentes. Est toujours quelque chose d'extrêmement choquant pour les sapeurs-pompiers.
Le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, joint pour Europe 1 par Pierre de Cossette. Une victoire pour la Société Générale dans l'affaire Kerviel. La Cour d'appel annule en effet la condamnation de la banque. Elle estime que l'ex-trader a bien commis une faute grave en prenant des positions risquées sur les marchés financiers. Son licenciement est donc justifié. En conséquence, Jérôme Kerviel ne touchera pas les 455 000 euros d'indemnité qui lui avaient été promis en première instance. La fin du bras de fer entre Bruxelles et Rome sur le budget italien qui a finalement été validé aujourd'hui par la Commission européenne. Le gouvernement italien a accepté de reporter deux de ses principales mesures, la réforme des retraites et la mise en place d'un revenu de citoyenneté, ce qui va permettre de limiter le déficit à 2,04% et d'éviter une aggravation de la dette. Donald Trump estime avoir atteint son objectif en Syrie, vaincre l'État islamique. Il le dit dans un tweet et il annonce dans la foulée le retrait des troupes américaines présentes sur le territoire syrien. Quelques 2000 soldats sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre Daesh et pour entraîner aussi les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes. Et puis le foot, on suit ça en direct sur Europe 1, les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue avec 6 matchs au programme. Il y en a un qui est déjà terminé. Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à sa victoire à Amiens, 3-2. Et on suit notamment ce soir l'Olympique de Marseille qui accueille Strasbourg. Yann Terouf.
Oui, ça se passe mal Isabelle pour les Marseillais qui sont menés 1-0 depuis la 18e. Jonas Martin, le côté strasbourgeois, a transformé à un pénalty. Et du côté des Marseillais, il y avait une tête contre son camp d'un défenseur strasbourgeois, mais finalement le but a été refusé pour cause de hors-jeu. Et depuis, eh bien, les Marseillais traînent leur galère, essayent de mettre en place leur jeu, mais avec les plus grandes difficultés face à des strasbourgeois opportunistes bien organisés. Là, il y a un centre, comme pour illustrer mon propos, avec Lucas Ocampos qui voit le ballon n'aboutir directement vers personne. On a entendu des chants hostiles au staff et aux dirigeants marseillais. Il y a une ambiance de très lourde ici dans ce stade Vélodrome où à peine 10 000 personnes sont là. 51e et pour l'instant Marseille est menée sur sa pelouse par Strasbourg 1-0.
Dur pour Marseille. Merci Yann Terrault en direct du Vélodrome. Autre match en cours, Monaco-Lorient que l'on suit grâce à vous Frédéric Elion et qui a pu reprendre hein, malgré les conditions météo qui ont entraîné une interruption tout à l'heure.
Exactement Isabelle, 34 minutes de jeu seulement ici au stade Louis II puisque la partie a été interrompue, la pelouse était tout simplement pas du tout praticable, c'était une parodie de football, les passes à 2 mètres n'arrivaient même pas au destinataire tant le ballon s'arrêtait véritablement sur la pelouse. Ça a repris, cette pelouse elle a bien récupéré finalement, récupéré l'eau et on joue depuis donc 35 minutes, pas vraiment d'occasion entre ces deux équipes. Monaco qui on le rappelle est en difficulté en championnat, attention justement à cette occasion dans la surface de réparation pour les Monégasques avec une frappe du pied gauche qui va passer juste à côté, c'était Fèvre qui a frappé juste à côté, mais les Monégasques en difficulté en championnat, 19e qui sont double finalistes, on le rappelle, de cette compétition, qui vont essayer de se donner un bol d'air face à des Lorientais, 4e en Ligue 2 qui se sont imposés lors des 3 tours précédents, à chaque fois à l'extérieur, à chaque fois sur le score de 1-0, 0-0, 35 minutes.
Merci beaucoup Frédéric Elion en direct de Monaco. Je vous donne les scores pour les 4 autres matchs qui sont en cours. 0-0 entre Dijon et Bordeaux et entre Nice et Guingamp, 1 partout entre Le Havre et Nîmes et Nantes qui mène pour l'instant 1-0 à Rennes. Et puis un nouvel entraîneur pour Manchester United après le limogeage hier de José Mourinho pour cause de mauvais résultats. C'est le Norvégien Ole Gunnar Solskjær qui lui succède jusqu'à la fin de la saison. Ole Gunnar Solskjær qui a remporté 6 championnats d'Angleterre et une Ligue des Champions en tant que joueur d'ailleurs avec Manchester. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Elena Morna. Accalmie dans le sud-est après les pluies soutenues et les fortes chutes de neige.
Mais oui Isabelle, il est tombé jusqu'à 40 cm de neige aujourd'hui sur le sud des Alpes et 30 mm de pluie en pleine. Alors demain, place au soleil du Languedoc-Roussillon aux Alpes. Les éclaircies seront plus timides entre le sud Aquitaine et l'Ariège. Sur les deux tiers nord restants, eh bien là, le ciel sera souvent nuageux, nuages et averses sur la Gironde, le Limousin, le Poitou-Charentes, l'Auvergne et le nord-est. De la neige à partir de 1000 mètres, plus sec sur le nord-ouest sauf en bord de Manche, dans le vent et des averses fréquentes. Sur l'intérieur de la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, on aura quand même un peu plus de chances d'éclaircir. merci. Les températures, elles restent douces, beaucoup trop douces. Pas moins de 6 degrés demain après-midi pour Aurillac, 8 à Belfort et Annecy, 9 à Nancy, 10 à Lyon, 11 à Lille, Clermont-Ferrand et Toulouse, 12 pour Paris, Amiens et Nice, 13 à Rennes et Bordeaux, 14 pour Caen, Bayonne ou Ajaccio. Vendredi sera un jour de pluie pour tout le monde, sauf dans l'extrême sud. La douceur va monter d'un cran et la pluie remplacera la neige en montagne en dessous de 2000 mètres.
La météo, signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le cofondateur d'Altifor, repreneur d'Ascoval. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse comme tous les soirs avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui a très mal réagi ce soir aux annonces de la Fed.
Oui, une réaction très négative des marchés qui avaient pourtant démarré la séance dans le vert. Finalement, le Dow Jones perd 1,49% à 23 323 points et le Nasdaq lui chute de 2,17%, 6 637 points. La Fed a relevé d'un quart de point son principal taux d'intérêt ce soir. Alors ça, c'était prévu. Le problème pour les investisseurs, c'est qu'ils espéraient que la Banque centrale américaine soit plus prudente sur les prochaines hausses de taux l'année prochaine. Ils tablaient sur une seule hausse, voire sur aucune. Et finalement, la Fed, elle parle de deux hausses. Elle estime que l'économie est assez solide pour encaisser ce resserrement monétaire. Alors les marchés qui étaient en hausse avant ces annonces se sont complètement retournés. Les grandes valeurs sont assommées, moins 3% pour Nike et pour Apple, moins 4,5% pour Intel. Facebook dégringole même de 7% après de nouvelles révélations sur son utilisation douteuse de données personnelles de ses utilisateurs. Le pétrole remonte tout de même après son plongeon. Hier, le WTI reprend 2%. On est à 47$ le baril. Et puis l'euro est en hausse de 0,1%, 1,1374.
Et le marché parisien, lui, regagne un peu de terrain ce soir.
Oui, le CAC 40 qui est remonté après 4 séances dans le rouge et avant aussi ce verdict de la Fed. Il rebondit de 0,49%, 4777 points. On a un compartiment automobile qui se distingue. Peugeot gagne 1,5%. Ça monte surtout pour les équipementiers. Plastic Omnium plus 3,8%. Forestia plus 1,7%. La banque Crédit Suisse est plus optimiste pour l'automobile l'an prochain. Après une année 2018 secouée par la baisse des ventes en Chine et en Allemagne, entre autres. Et puis ce soir, un autre équipementier, Plastivaloir, grimpe même de 7% après sa publication annuelle.
Et une belle séance aussi pour le titre Bourbon.
Oui, le titre qui a gagné jusqu'à 20% en séance monte finalement de 5% à la clôture des marchés. Selon le magazine Challenge, 3 fonds américains seraient prêts à reprendre le groupe parapétrolier via une injection de 200 millions d'euros. Bourbon, qui est fortement endetté, traverse une période très compliquée. Et puis Natixis chute de 6%. La banque a lancé un avertissement sur ses revenus du quatrième trimestre. Les autres marchés en Europe, Londres gagne 1%, Francfort plus 0,2%. La bourse de Milan a pris 1,6% après le compromis trouvé avec Bruxelles sur le budget italien pour 2019. Madrid plus 0,8%, Bruxelles plus 0,3%. Et le CAC 40 gagne 0,5% à 4777 points.
Les précisions détaillées comme toujours de Claire Lemaître de Boursier.com. Merci Claire. Et à 22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'invité écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, pile dans l'actualité puisque vous recevez ce soir le cofondateur d'Altifor, repreneur d'Ascoval.
Bonsoir Bart Gruyert.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le repreneur d'Ascoval. Ascoval, c'est cette fameuse aciérie dans les Hauts-de-France dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Quel est déjà votre sentiment ? Est-ce que c'est un soulagement ?
Je pense que c'est un soulagement parce que la bataille était longue et plus compliquée que prévu. Pas que pour les salariés, aussi pour Altifor. Et donc aujourd'hui, c'est un soulagement. C'est pas l'effusion, mais c'est un soulagement. Et donc il faut accepter comme les salariés qu'on a besoin de quelques jours pour digérer cette décision positive et de se réaliser qu'on y est.
Quand vous dites c'est pas l'effusion, c'est parce que ça a été tellement dur que là finalement on a quoi ? Du mal à y croire ou il y a eu trop d'épreuves ?
Je pense qu'il y avait d'autres épreuves. Quand on fait un marathon, on est content d'arriver, sauf qu'on a besoin d'un certain temps de réaliser qu'on a terminé le marathon, et c'est pareil. Donc, il y avait tellement d'obstacles, on est reparti plusieurs fois de zéro dans ce dossier-là. Et dans un certain moment, on imagine qu'on est complètement fou de faire ce travail sur un dossier titanesque comme ça. Mmh. Et au moment qu'on est arrivé, on a du mal à réaliser que c'est fait. Donc, voilà.
Alors ça y est, c'est fait. Les emplois sont sauvés sur place. Hein. 281 salariés sont sauvés. C'est ce pourquoi s'est réjoui notamment Bruno Le Maire dans un communiqué cet après-midi. Vous vous étiez engagé à créer également des emplois, 140 emplois. Le plan ne change pas. Vous allez créer de l'emploi ?
C'est impératif parce qu'aujourd'hui, le site il travaille en 3-8 et on doit passer de 3-8 à 5-8. Donc ça, c'est une première explication pour laquelle on doit embaucher. Et ensuite, il y a le fameux train à fil qui ajoute effectivement la création des emplois sur le site.
Comment vous expliquez que ça a été si dur pour convaincre les pouvoirs publics, pour convaincre tous les partenaires, je crois que pour les banques, jusqu'à la dernière minute, vous avez dû aller mouiller la chemise, pardonnez-moi l'expression, mais pour essayer de les convaincre?
Mais on a eu perdu, entre parenthèses, beaucoup de temps avec la discussion de Vallourec. Et c'est là que c'était très dur. Donc Vallourec a utilisé plein des arguments qui n'étaient pas liés à notre projet, mais qui étaient liés plutôt à leur situation financière. Et donc on a perdu beaucoup de crédibilité sur notre projet à cause de ça. Et le jour qu'on a dû repartir de zéro sans Vallourec, on imaginait que c'était fatal pour le projet. Et ensuite, heureusement que le rapport de Roland Berger était positif sur notre projet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a dû, ou on était capable de vraiment retravailler sur notre dossier. Parce que tous les financiers ont perdu la confiance dans notre dossier. Tous les acteurs ont perdu de confiance, y compris les salariés, je pense, dans leur état d'esprit. Nous aussi, en tant qu'Altifort, il ne faut pas le cacher. Et donc, c'est au moment que Roland Berger a donné un avis positif au nouveau projet, entre parenthèses, qu'on a estimé que c'était faisable.
Est-ce qu'à un moment, vous avez failli abandonner ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, j'en ai ras-le-bol, on trouvera une autre aciérie à racheter pour continuer de grossir ?
Bien sûr que dans un dossier comme ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de faiblesse. Donc oui, on a eu plusieurs moments qu'on s'est dit au sein d'Altifort, parce qu'on était mis beaucoup à l'épreuve au sein d'Altifort. Ce sont des moments dans lesquels on s'est mis autour d'une table avec toute l'équipe et on a dit, est-ce qu'on continue ou pas ? Et voilà, il y a des moments que j'étais où on était avec très peu qui ont eu envie de continuer et la majorité n'avait plus envie de continuer. Mais voilà, je pense qu'il faut être têtu de temps en temps pour continuer certaines choses. Mais voilà, si je savais au début toutes les épreuves qu'on a traversées, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'étais pas le candidat repreneur à l'époque. Mais c'est
vous en voulez aujourd'hui à Vallourec ? Vous avez envie de les attaquer pour tous les problèmes qu'ils ont pu vous mettre en travers de la route ?
Non, je pense que je suis trop pragmatique dans mon approche. Demain, c'est un client Vallourec, il faut espérer que c'est un bon client. C'est un client comme un autre. Et voilà, nous, en tant qu'entrepreneurs, on est obligés de tourner cette page, même si c'est difficile, parce que je trouve qu'on a eu plein de tempêtes injustes dans ce dossier-là. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Il faut être capable de tourner cette page et de dire, voilà, bienvenue Vallourec comme client de Altifort Steel, hein, qui va être le nouveau nom du site.
Est-ce que malgré tout, ces difficultés qui ont existé pour la reprise, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, cette reprise, ça n'a pas constitué peut-être la plus belle des choses possibles, c'est-à-dire des valeurs communes, de se défoncer ensemble pour demain ?
Je pense que la création d'Altifort, depuis son début, il s'est inscrit à pérenniser des sociétés qui étaient à première vue perdues en France. Je vous rappelle qu'Altifort, c'est un groupe de 1500 salariés et qui exporte 70% de son chiffre d'affaires malgré d'être installé en France. Et donc, je considère qu'il y a un avenir pour l'industrie en France. On a fait la preuve avec les sociétés qu'on a déjà acquises. Et j'espère bien sûr qu'avec Ascoval, on peut démontrer la même chose. Parce que l'avenir d'Ascoval, ce n'est pas de vendre qu'en France. C'est surtout l'export qui peut nous donner cette capacité de remplir cette usine. Ce n'est pas le marché français qui va la remplir, c'est le marché mondial européen qui va être capable de remplir cette usine.
Et là-dessus, pas de doute, les clients qu'on vous avait demandé de trouver sont des clients sûrs qui vont véritablement faire vivre cette usine dans les mois et les années à venir.
J'étais agréablement surpris dans une période qu'on était sollicité grâce aux médiatisations des dossiers par des acteurs étrangers. Et donc aujourd'hui, c'est plus du tout mon inquiétude qu'on va être capable de remplir cette usine.
Pour vous, cette usine, c'est sûr, elle va vivre et elle va bien vivre.
C'est un travail du quotidien, donc on ne peut jamais dire en amont que c'est gagné, mais c'est un travail au quotidien avec les salariés, avec la direction et les syndicats et Altifort. Et aujourd'hui, on a déjà démontré que l'impossible était possible. Et je pense que demain, on va de nouveau faire la démonstration que l'impossible est possible. Et c'est ça qui sont nos convictions et on ne peut pas enlever les convictions d'Altifer.
Vous avez réservé la primeur de cette bonne nouvelle aux salariés. Quand vous les avez eus, là, face à vous, les yeux dans les yeux, quels ont été vos premiers mots? Qu'est-ce que vous leur avez dit?
J'ai utilisé une chanson belge. Vous êtes formidable. Ce sont les mêmes premiers mots que j'ai utilisés. Parce que voilà, c'est quand même ça. On ne peut pas se battre pour une série comme celle-ci si les salariés ne sont pas exceptionnels aussi. Ça va main en main. Une usine exceptionnelle sans salariés, ça n'a pas de valeur. Donc, eux, ils étaient à l'auteur de leur défi, de leur challenge, de la bataille. Et voilà, c'est un élément clé pour avoir cette décision positive aujourd'hui.
L'État français aussi a été à la hauteur. Quand vous avez réussi à les convaincre, vous avez eu un soutien qui répondait à ce que vous vouliez dans cette période politique qui était un peu compliquée par ailleurs.
Mais je considère qu'on a deux phases dans l'approche de l'État. Je considère que la dernière phase de l'État était effectivement encourageante, engagée, et était à l'auteur de la mission.
Eh bien merci, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir sur Europe 1. Bart Gruyère, le repreneur donc de cette usine Ascoval, un grand merci à Lionel Gougelot, notre correspondant dans le Nord qui a rendu possible cette interview ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Et merci à vous Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Le couple exécutif est à la une de Libération demain, avec une photo d'Emmanuel Macron aux côtés d'Édouard Philippe et ce titre, Les apprentis. Annonce démentie dans l'heure, communication défaillante, tergiversation en tout genre. Pendant la crise des Gilets jaunes, la Macronie, nous dit Libé, a multiplié les couacs, à l'instar de l'ancien monde qu'elle se plaisait à moquer. Les Gilets jaunes, justement, le journal L'Opinion tente de décrypter leur ADN, de l'abbé Pierre à Coluche en passant par 1789. Les Gilets jaunes ont bâti une culture commune en 5 semaines. Et le journal L'Opinion décrypte donc ces références qui traduisent des revendications plus politiques. C'est une très impressionnante plongée que vous propose le journal La Croix demain, à la rencontre des personnes sans domicile fixe qui trouvent refuge sous l'immense esplanade du quartier de la Défense à l'ouest de Paris. On ne peut imaginer contraste plus fort. Sur la dalle, les brillants gratte-ciels où se gèrent des entreprises mondialisées. Sous la dalle, les recoins sombres où s'abritent les misérables de notre temps, ceux auxquels, dans un autre siècle, Victor Hugo avait voulu rendre toute leur dignité. Avec ce reportage, nous dit Guillaume Goubert, il ne s'agit en aucune manière de créer une opposition entre les manifestants qui occupent les ronds-points depuis des semaines et d'autres qui seraient plus à plaindre. Au contraire, l'une des leçons de l'enquête est de faire apparaître que sous la dalle de la Défense s'abritent aussi des personnes qui ont un travail précaire, mais qui n'ont plus de toit, souvent à la suite d'une rupture familiale, et qui, avec l'aide des travailleurs sociaux et des associations, espèrent bien retrouver rapidement un logement. Ceux-là ne sont pas très loin des Gilets jaunes, inquiets justement de basculer dans la pauvreté. Ceux qui survivent sous la dalle de la Défense sont les plus invisibles parmi les invisibles de la société française qui cherchent aujourd'hui à se faire entendre. Il faut accepter de les voir et de les écouter. L'ambition profonde du débat national qui va s'ouvrir devrait être de recréer une réelle continuité entre eux, les plus privilégiés et les plus pauvres. En haut des tours de la Défense, il faut que les premiers de cordée aient conscience qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui sont derrière eux, à tous les étages de la société. Et puis Facebook, le scandale de trop, s'interroge Daniel Fortin dans Les Échos. Il revient sur ces nouvelles révélations du New York Times qui, écrit-il, risque de faire cette fois très mal à Facebook selon le quotidien américain. Le réseau social aurait permis à plus de 150 sociétés, dont Microsoft, Amazon, Apple ou Netflix, d'accéder aux informations, contacts et messages privés des utilisateurs sans leur consentement. De nouvelles allégations démenties par Facebook, mais qui risquent d'alourdir le dossier déjà épais des charges qui s'accumulent contre le groupe. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et on va repartir tout de suite à Marseille en direct, rejoindre Yann Théroux, la Coupe de la Ligue, l'OM qui affronte Strasbourg et Marseille qui continue à souffrir, Yann.
Oui, exactement. C'est à rire ou à pleurer, c'est selon. Mais en tout cas, Strasbourg mène toujours un but à zéro sur la pelouse du Vélodrome. Les Strasbourgeois qui font le job à la perfection. Mais à l'instant, Isabelle, les Marseillais bénéficiaient d'un pénalty. Dimitri Payet l'a tiré peut-être un petit peu trop mollement en n'allant pas chercher suffisamment le poteau. Et Binguru Camara, le gardien strasbourgeois, l'a repoussé des Marseillais empêtrés dans leurs difficultés et dans leur crise qui sont donc menés à 20 minutes très exactement de la fin. Et je ne sais pas si cela peut représenter une bonne nouvelle, mais Kostas Mitroglou et Clinton Engie ont fait leur entrée en jeu. Un but à zéro pour Strasbourg, la 70e au Vélodrome.
Merci beaucoup Yann Théroux. À Monaco, Frédéric et Lyon, c'est la mi-temps face à Lorient.
Exactement Isabelle, puisque bien, on a eu un match assez particulier ici, des gros orages lors du premier quart d'heure, le ballon qui n'avançait plus du tout sur le terrain, c'était honnêtement une véritable parodie de football, c'était tout simplement injouable, le match a été interrompu pendant une grosse demi-heure, puis a repris la pelouse qui a bien absorbé l'eau, c'est donc la mi-temps, et puis on a eu deux physionomies différentes pendant ces conditions très compliquées, c'était plutôt les Lorientais qui ont dominé, et depuis que les 22 acteurs sont revenus sur la pelouse, ce sont les Monégasques qui ont pris le contrôle du jeu avec deux belles situations pour le jeune Romain Fèvre qui était tout seul dans la surface de réparation à la demi-heure de jeu qui a tiré à côté, et aussi Diop qui a raté un ballon alors qu'il était tout seul dans la surface de réparation. Pour l'instant, le 4e de Ligue de Lorient tient tête au 19e de Ligue 1 et double finaliste de l'épreuve Monaco.
Merci beaucoup Frédéric Lyon. Je vous donne les résultats des quatre autres matchs qui se jouent en ce moment. Bordeaux mène 1-0 à Dijon. Le Havre domine 2-1 contre Nîmes. 0-0 entre Nice et Guingamp. Et un partout entre Rennes et Nantes. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle. Vous allez bien?
Très bien. Merci beaucoup.
Vous nous avez manqué.
Non, mais c'est gentil. Vous m'avez manqué aussi. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.